Vous écoutez
RMC.
RMC.
Aïe, 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 oujou. J'ai parlé français.
Je voulais souhaiter la bienvenue à Bruno. Benvindo.
Ça va bien, tout. Ah, bonjour, la maison. Parti.
Jusqu'à minuit.
C'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
21h03 exactement, vous êtes sur RMC dans l'After, toujours en compagnie de Stéphane Guy et de Seb Piocel. Christophe Galtier est en conférence de presse aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tout ça d'ailleurs sur rmcsport.fr. On a parlé de ça avec Clément Brossard qui était sur place, pas mal de dossiers mercato. Et puis demain, il y a Nantes-Lille, ce sera à suivre sur RMC bien sûr à 21h, première affiche la deuxième journée de Ligue 1. Notre correspondant Pierre-Yves Leroux était sur place et il est avec nous. Salut Pile.
Salut Nico, bonjour à tous.
Salut Pierre-Yves.
Merci d'être avec nous Pile en ce jeudi soir. Après avoir assisté notamment à la conf de presse d'Antoine Camboiré. Là aussi, hein, d'ailleurs, il a été question de Mercato. Tu y étais à cette conf d'Antoine Camboiré. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque le sujet du jour, c'est le possible départ de Blas à Lille, bah, qui est l'adversaire de Nantes ce week-end, ça tombe bien, ou mal.
Bah, oui, c'est un sujet redondant, puisqu'on sait que Lille s'intéresse quand même aux joueurs depuis un an et demi, que c'est aussi une progression pour le joueur d'aller voir un petit peu plus haut, et que ça s'accélère un peu, effectivement, que on sent que le FC Nantes de demain ne sera pas forcément un FC Nantes avec Ludovic Blas, mais que rien pour l'instant n'est réglé. Ce que je vous propose, c'est d'écouter d'abord l'avis de Antoine Camboiré, le coach nantais, par rapport à l'évolution de ce dossier et le possible départ de Ludovic Blas.
Il est là, il est bien là, donc c'est ça qui est le plus important. Si on me pose la question, Ludo, il part pas, il reste là. Il y a plein de contacts. Dans le passé, il y avait des joueurs qui avaient des contacts avancés, puis des fois ça aboutit, des fois ça n'a pas abouti. Si j'ai bien compris, il y en a qui ont annoncé qu'il n'était plus avec nous ce week-end, non ? Pour ça, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et puis là, aujourd'hui, donc, on s'est parlé pour dire, Ludo, dans quel état d'esprit tu es ? Il m'a dit, coach, je suis à 100% disposé à jouer ce match, ça me suffit. À un moment donné, je vais finir par dire non. Après, je ne dis pas que moi, j'ai les pleins pouvoirs. Mais si on me pose la question, je dirais non. Et il y aura une deadline.
Alors, il y a quasi la moitié des questions en conf de presse qui ont porté sur sujet. Alors, c'est vrai que le hasard du calendrier fait que hein, Blas pourrait jouer face à son potentiel futur club. L'agacement de Camboiré, il est allé un petit peu crescendo aussi, hein, Pile.
Bah, c'est à force d'avoir la question qui lui a été posée. C'est vrai, il y a eu 20 minutes, 16 minutes de conf de presse et 7 minutes consacrées au dossier Ludovic Blas. Donc, au bout d'un moment, il a dit on va parler d'autre chose. Mais il sait bien que. Aujourd'hui, c'est une question essentielle pour lui aussi. Et je l'ai relancé, moi, à un moment, lui disant, mais il y a aussi le devoir pour vous d'anticiper un éventuel départ, parce que le mercato se termine dans un tout petit peu plus de 15 jours. Et là, il a convenu. Il a dit, oui, on travaille sur le dossier, évidemment. Je pense qu'il se fait à l'idée que Ludovic Blas va partir, très, très probablement. C'est une logique quasiment écrite.
Ça c'est quand même un sacré. Alors, au Portugal par exemple, on l'appelle le mercato d'été là. Cette période où le championnat a commencé jusqu'à la fin du mercato, la silly season, parce qu'ils savent que les clubs vont se faire piller leurs meilleurs joueurs, notamment le 31 août à minuit avec les panic buy des clubs anglais. Bah, Nantes ils sont un petit peu en train de vivre ça. Il l'avait dit il y a quelques jours, Camboiré, et qu'il était inquiet d'ici le 1er septembre, etc. C'est vrai que ce dossier Blas, il cristallise un petit peu ça aussi, Seb. Toi qui connais bien Nantes.
Non, bah après le fait qu'il soit agacé, bon ça c'est tout à fait logique. Le fait que Blas va peut-être ou certainement partir du FC Nantes, c'était quand même d'actualité. Il pouvait pas retenir certains joueurs, notamment juste avec une qualification en Ligue Europa, sachant que c'est une équipe qui est en train quand même de s'affaiblir, qui risque d'être en difficulté, parce que quand on voit l'effectif aujourd'hui. Avec encore Ludovic Blas, sachant qu'il va y avoir la Coupe d'Europe et énormément de matchs jusqu'à la Coupe du Monde, ça risque d'être compliqué. Donc, j'espère qu'ils l'ont anticipé. J'y crois pas trop parce que bon, je vois aussi quelques noms qui pourraient le remplacer. C'est pas du niveau de Ludovic Blas, surtout quand t'as déjà perdu.
Quand tu dis ça notamment.
Non, Caramo, je crois. Enfin, il y a quelques. Bah, après, c'est compliqué de remplacer Ekolo Muani.
Bah, oui. Et parti gratos en plus.
Et Blas. Alors là, la seule chose, c'est qu'ils risquent de bien le vendre, sachant qu'il avait quand même acheté assez cher, je crois 7 ou 8, Pierre-Yves, non, un truc comme ça. Bon, ils vont pas non plus le vendre 30.
Non.
Mais c'est vrai que pour Antoine.
Quand tu vois Kalimundo à 25, tu peux te dire que Blas, il vaut de l'argent. Hein. Mm. Bon bref, c'est un autre débat.
Ouais, mais c'est vrai qu'il peut commencer à être inquiet. Et encore, sincèrement, je regarde pas le match contre le Paris Saint-Germain en Trophée des Champions. contre Angers, il y a eu une mi-temps partout, on va dire. Il peut faire des miracles, Antoine, mais si on lui enlève tous ses meilleurs joueurs, ses leaders aussi, et sachant que, comme tu le disais, le mercato, il est loin d'être terminé. Ah, quoi. Oui. Tu sais, des fois, quand t'es joueur, tu restes dans ton club en te disant bah tiens lui il reste on va quand même avoir, et puis au fur et à mesure tu vois tel joueur partir, autant Simons il va se dire tiens si j'ai l'opportunité je vais essayer de partir,
lui et pas moi quoi.
Ah non, tout est à vendre.
Oui, il y a dès l'instant
c'est où, des clubs où tout est à vendre.
Voilà. Mais c'est une année où tu as une Coupe d'Europe à jouer quand même.
Oui, mais
aussi,
ça change pas grand-chose. Ouais. C'est une péripétie.
Il faut pas qu'il se trompe d'objectif, l'FC Nantes. Bien sûr que bah, quand tu joues une compétition et que tu rentres sur un terrain, tu rentres pour gagner. Mais moi, comme je dis depuis le début, dès l'instant où ils se sont qualifiés d'ailleurs, priorité vraiment en championnat, 4 descentes. Des matchs à répétition, c'était un effectif amoindri, avec moins de qualité. Attention. Non.
Mais c'est une péripétie, Stéphane, la Coupe d'Europe, on est d'accord, parce qu'elle est arrivée un peu par miracle avec cette victoire en Coupe de France, mais Antoine Comboiré va pas accepter de démarrer, il s'est déjà fait le championnat et l'Europa League avec une équipe qui va se faire laminer. C'est pas dans l'esprit.
Non, mais moi je dis ça en le regrettant, hein, si tu veux. Moi j'aurais aimé qu'après, effectivement, un événement heureux comme celui-là, le club s'appuie là-dessus pour afficher de nouvelles ambitions, un nouveau format, un nouveau mode de fonctionnement. Bon, le mode de fonctionnement nantais, on le comprend, ce qu'on ne comprend pas finalement, quoi. C'est tout change tout le temps, donc il y a aucune continuité à Nantes.
Tout change, mais rien ne change.
Tu le sais mieux que moi, Pierre.
Tout change, mais rien ne change. 2 millions d'euros investis là sur Sissoko.
Ouais, pour Sissoko, oui. Et d'ailleurs, juste, est-ce que tu as des infos toi sur le dossier Blas précisément, parce que c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, mais ça fait des semaines qu'il traîne ce dossier.
Oui, alors ça s'est accentué un peu ces derniers jours dans la discussion entre les clubs, semble-t-il, mais il n'y a pas, en tout cas hier matin, il n'y avait pas d'offre concrète d'arrivée ni pour le joueur ni pour le club.
Ça s'est accentué avec la vente d'Onana.
Oui, alors forcément, voilà, mais... Du côté de, ça s'est tendu, semble-t-il, cette semaine aussi, parce que je pense qu'Antoine Comboiré, s'il voit Ludovic Blas partir, il souhaite que derrière il y ait quelqu'un qui le remplace, et pas seulement numériquement, de façon qualitative aussi. Donc ça entraîne des tensions, forcément. Là, il y a ce match en plus contre Lille, donc là tout est retombé. Il nous affirme, Antoine Comboiré, qui sera sur la feuille de match, que le joueur est à 100%. Néanmoins, dans la tête, c'est compliqué hein, de jouer contre un club qui va peut-être le vaudre dans quelques jours. Et les discussions pourraient reprendre en début de semaine et peut-être se conclure la semaine prochaine.
T'as pas l'air convaincu par l'argument du c'est difficile, Seb.
Non.
T'as connu ça toi, jouer contre un club qui te, alors pas forcément t'as signé, mais qui te sollicite. Non, personne voulait
non.
Toi,
on voulait pas, me libérer. Ouais. Non, pas forcément, parce que c'est une deuxième journée de championnat. Il y a pas vraiment d'enjeu. En plus, c'est à la Beaujoire, donc quelque part, lui, à titre personnel, il peut se dire tiens, c'est peut-être mon dernier match, donc je vais essayer.
Comment il va être accueilli par les supporters?
Il aura le temps de se refaire la cerise en arrivant là-bas s'il est bon.
Ouais, non, il sera bien accueilli.
Oui, franchement, c'est une deuxième journée. Après, si tu me dis c'est une finale de coupe.
Bah, vous savez quoi, il sera bien accueilli. Moi, je vous propose d'accueillir Anthony, supporter de Nantes, qui nous a appelé au 32-16. Salut Anthony.
Salut l'équipe. Salut Anthony.
Et ben toi, je crois savoir que t'es colère contre Blas, toi.
Alors je suis pas colère contre Blas. Je suis colère contre la direction, comme d'habitude, parce que là on a un Blas qui est en train d'évoluer et de monter un petit peu plus haut. Là on avait une Coupe d'Europe. Alors je parle comme si t'es parti, mais je veux dire que fait le président en fait? Que fait le président? Tu laisses partir un joueur comme ça. Derrière, on n'a pas de cellule de recrutement, donc forcément, t'as personne qui arrive.
Là, t'as que des agents. Quoi.
Je pense pas que c'est Sanogo ni Bayat qui va nous ramener des pépites. Après,
ils en ont ramené. Il y a quand même eu un sacré paquet de bons joueurs passés par le FC Nantes ces dernières années. Hein, dans le grand maelstrom nantais, et Ludovic Blas en est un bon exemple. Hein, il y a des sacrées bonnes pioches à Nantes. C'est ça qui est troublant justement dans l'évolution de ce club, c'est qu'ils sont capables dans leur fonctionnement.
Tu en ressors un ou deux de temps en temps, par rapport à tout ce qui a été dépensé, par rapport à
l'équipe qui a gagné la Coupe de France. Je dis pas que c'est au global positif, loin de là, mais il y a plein de bonnes idées à Nantes.
Mais moi, le foot, ça reste un sport collectif. aujourd'hui, il faut dire que Comboiré a fait un travail incroyable parce que tous ces joueurs-là, avec certains coachs, ils étaient à la ramasse. Hein. D'ailleurs, depuis que c'est Antoine, franchement, il a réussi à créer un collectif. Il y a des joueurs comme Palois, par exemple, qui était assez moqué par rapport à ça. C'est aujourd'hui un pilier, il a été prolongé. On le disait tout à l'heure, en fonction de l'entraîneur que tu as, ça te permet d'être meilleur ou d'être moins bon.
Oui, l'entraîneur et puis une dynamique collective qui s'implique, qui s'impose, quoi.
Parce qu'à moi, moi je pense que Ludovic Blas, ça fait beaucoup aussi la semaine dernière, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le documentaire qui a été fait par l'FC Nantes, mais Ludo Blas dit au coach à Comboiré, il lui dit écoute, t'inquiète pas, enfin tu me mets capitaine et cette Coupe de France je vais te la ramener, on va aller au bout. Et je pense que Blas était aussi un élément moteur dans cette équipe. Je pense qu'il devait amener de la fraîcheur, une bonne ambiance aussi. Et perdre un gars comme ça aujourd'hui, comme on dit, c'est vrai que ce mercato, il est ça reste quand même un gros problème au vu des dates. Mais un joueur qui fait une préparation, Comboiré, je pense qu'il l'avait intégré dans l'effectif pour la saison. Maintenant, le voir partir comme ça, je trouve ça, et puis enfin pour une somme entre guillemets, moi je trouve un petit peu minable. On parle de 15 millions d'euros.
Ouais, avec les bonus, ça ira un peu plus haut. Mais Antoine Comboiré sait très bien dans quel club il est. Il sait très bien que jusqu'au 1er septembre, ça peut bouger. Donc il est prêt à ça. Il est zen par rapport à ça. Quand il est arrivé, on lui a posé beaucoup, beaucoup de questions en disant Mais qu'est-ce que vous voulez faire là?
Puis je te coupe. Il dit quand même il y a quelques jours, je vous cache pas que je suis inquiet. On peut même trembler jusqu'au 1er septembre quand il parle du mercato.
Et finalement, jusqu'à maintenant, il avait plutôt, depuis son arrivée, notamment le dernier mercato d'été. Où on pouvait aussi s'imaginer trembler, il avait réussi à garder tout le monde,
le paradoxe c'est que t'es en Coupe d'Europe et que tu vas peut-être pas pouvoir les garder,
c'est l'été de tous les dangers.
Vas-y, ça. Non, je pense qu'il y a un problème, je sais pas Pierre, peut-être que tu peux me renseigner, il gagne combien Blas à Nantes? Moi j'ai aucune idée du salaire de Blas. Mais vu les salaires, l'idée est que j'ai des salaires de Nantes, ça doit être entre un salaire de 80 de Lille, il va doubler son salaire, Blas.
Et voilà, c'est ça. En fait, du côté du joueur, on sait très bien que l'avenir, il est plus dans un club comme Lille où il y aura plus de chances de jouer régulièrement la Coupe d'Europe qu'à Nantes.
Non, mais après,
il va gagner deux fois ou trois fois s'il gagne à Nantes. Et Blas, c'est un joueur qui, pour l'instant, il a fait Guingamp et Nantes, donc il a pas dû gagner des milliers et des cents, quand même.
Il faut pas se tromper. C'est à court terme, tu te dis, ouais, Nantes est européen, il va jouer. Mais on va dire que sur ces dernières années, Lille est plus un club européen que le FC Nantes. Voilà. Donc quelque part, il rentre dans une autre sphère. Nantes va le. C'est même pas trop ça le problème. C'est surtout de préparer l'après Blas, de pas empiler des joueurs juste parce que c'est souvent le cas de Nantes. Ils vont te prendre 2-3 joueurs comme devant. Ils vont te prendre 2-3 joueurs pour remplacer finalement des top joueurs depuis 2-3 ans.
Ils vont peut-être faire la bonne affaire avec celui qu'ils ont pas prévu. Un peu comme avec Colomoigny, qui était revenu un peu par hasard d'un prêt à Boulogne et puis qui.
La bonne affaire le 11 août, ça devient chaud quand même. Hein.
C'est une bonne affaire.
C'est vrai qu'on est tard. Patrick, supporter de Nantes, est avec nous également. Merci Anthony de nous avoir appelé.
C'est dur d'être supporter de Nantes. C'est dur. C'est à la fois très ils ont dû prendre beaucoup de plaisir l'année dernière. C'est très festif comme stade, mais c'est dur à suivre Nantes.
C'est pas Patrick qui va te démentir. Salut Patrick.
Ouais, bonjour à tous. Bonsoir.
Salut
à
Patrick.
Alors qu'est-ce que t'en penses du dossier Blas, toi, Patrick, et du mercato globalement?
C'est un dossier habituel dans le football d'aujourd'hui. C'est une question de gros sous. Je pense que si on se place du côté du joueur, le joueur, il a envie de partir pour différentes raisons. Et quelqu'un vient de l'évoquer, et je suis assez d'accord avec ça. Il pense que dans l'avenir, il a plus d'avenir dans un club comme Lille, qui va continuer à grandir, à jouer les Coupes d'Europe régulièrement, que dans un club comme Nantes, et ça me fait de la peine de le dire. On a un président qui aujourd'hui ne veut pas forcément investir. Il avait l'opportunité de le faire cette année avec une Coupe d'Europe à jouer, donc il ne le fait pas. Donc le dossier Blas, c'est une question de gros sous. Je pense que dès que Kita va obtenir une somme très proche de ce qu'il attend, alors on parle de 15 millions, je pense que ça va être dans les 15 millions, avec peut-être des bonus avec, et ben Blas va partir. C'est la volonté du joueur, je pense que c'est la volonté du club de le vendre, à tort ou à raison, après c'est un autre débat. Et dans un deuxième temps, après, dès que l'histoire du montant sera réglée, Blas, il partira. Voilà. Et moi, j'étais même persuadé, Hier, je vous aurais dit que Blas ne serait pas sur le, dans le groupe de demain et n'affronterait pas.
D'ailleurs, attendons
d'être à demain, d'ailleurs.
Ouais, et c'est ce qui a d'ailleurs agacé pas mal de. Merci, Patrick, de nous avoir appelé au 32-16. Juste pile avant de te lâcher, j'aimerais que tu nous glisses un mot quand même sur ce qui se passe autour de la Beaujoire à l'approche notamment du retour de la Coupe d'Europe à Nantes. Hein.
Bah oui, parce que ça fait 18 ans quand même. Hein, donc, faut faire quelques aménagements. Ils ont été pris par le temps parce que vous savez, à la Beaujoire, il y a des travaux qui étaient prévus pour la Coupe du Monde de rugby en 2023, les JO derrière, mais là d'un seul coup il y a l'Europa League qui est tombée, c'était pas forcément prévu, donc la pelouse, alors ça c'était pas dans le cahier des charges forcément, c'était prévu, la pelouse a été refaite, elle date de 2001, Sébastien tu l'as connu,
ouais, bien cette pelouse. Limite quoi.
Il a mangé le gazon là-bas.
Et ben ça faisait beaucoup de temps qu'elle avait pas été refaite, elle est magnifique, j'ai pu la voir hier, par contre ils l'ont testé les joueurs ce matin, c'est un peu sec encore, donc ça sera arrosé je pense un peu demain soir. On peut écouter peut-être Antoine Comboiré qui nous parle de ce stade où il va y avoir une ferveur aussi puisqu'il y a déjà beaucoup d'abonnés. On a presque atteint des records.
Super content de retrouver la Beaujoire, super content de retrouver notre public. Il y a une grosse attente, donc je pense que ça va être un supplément de motivation pour les joueurs, quoi. Supplément d'âme pour les joueurs quand ils vont arriver et puis ils vont voir ce 12e homme là présent. Ça aide, voilà. Mais il faudra que, surtout que nous, on soit capable de faire ce qu'il faut sur le terrain.
Ah, le retour de la Coupe d'Europe du côté de Nantes. Juste très rapidement, Pile, tu sens déjà, toi, l'effervescence venir, monter, là ?
Oui, je vais te donner le chiffre précis. Hein, 12 899 abonnés, déjà, pour la saison. Le record, c'était un peu plus de 20 000 en 2001-2002, mais parce que c'était la...
En Loire, ouais. Je crois que c'est quasiment...
Alors, il reste juste 500 places. Ouais. Il y a 6 500 au total, et il y a 6 000 abonnés. Ouais.
Ouais. Et la dernière campagne européenne, c'était quand,
Pierre-Yves ? C'était il y a 18 ans, mais c'était pour la Coupe Intertoto.
Ah oui. Donc.
Et avant,
la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions en 2001-2002.
D'accord.
Après le titre.
J'y suis allé.
Merci beaucoup, Pile, d'avoir été avec nous. Pierre-Yves Leroux, notre correspondant. Merci. Bonne soirée à toi, Pierre-Yves. À très, très bientôt, bien sûr. Ciao. Bien sûr. Demain, je vous rappelle l'affiche entre Lille et Nantes pour débuter la deuxième journée de Ligue 1. Ce sera à suivre sur RMC, bien entendu. Dans quelques instants, avis tranché de Seb Piocel sur la prestation des promus dès la première journée de Ligue 1. Voilà. Seb qui estime qu'il voit, il y a déjà un gap. Voilà. On voit déjà les limites des promus après une journée.
Ouais, ce mec est un visionnaire.
Tu penses que tu vois tout avec ton scotch sur les lunettes, Stéphanie? Parce que vous le savez pas, vous êtes à la radio forcément. Et pour aller voir les extraits sur le compte Twitter d'RMC, Stéphane Guy a du scotch au milieu de ses lunettes. Incroyable, quel homme.
Ça va tenir.
Voilà. On vous attend, supporters des promus,
les pas que d'ailleurs au mois de 16.
C'est un conseil que je peux donner
avec Seb Piocel. Avec Stéphane Guy, à tout de suite.
Attendez septembre.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Stéphane Guy avec Sébastien Piocel, 21h21, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit, hein, à partir de 22h, Gilbert Bribois sera là, il prendra le relais. Tiens, sachez que c'est officiel hein, pour Kalimundo au stade Rennais, puisque Rennes vient de l'officialiser notamment avec une vidéo très sympa sur son compte Twitter, une belle petite production avec Laurent Deutsch, voilà, c'est assez original. Il est côté historique,
dans
notamment.
Les petites rues de
voilà, Rennes. Exactement. Ouais, c'est assez sympa. Allez voir la petite vidéo réalisée par le Stade Rennais. Franchement, ils sont très très bons. Ils sont les services de com des clubs. Alors pas qu'en Ligue 1 d'ailleurs, d'une façon générale. Ils font des trucs très sympas pour annoncer les joueurs, etc. Très imaginatifs. Il y a vraiment des trucs vraiment pas mal.
Au Barça aussi, quand Dembélé là. T'as pas vu?
Ah ouais, avec le sur le tableau là. Mais
tranquille. Ils ont plus de moyens.
Non, mais c'est second degré à mort, justement. Tu vois, c'est de dire les mecs qui font des vidéos de ouf, super production. Nous,
c'est un peu, on fait des c'est trucs à la dèche financièrement, ouais. Du coup. Oui.
Après, ce qui serait bien, c'est que les services de com maintenant ouvrent leurs portes à la presse, aux joueurs aussi, aux supporters plutôt. Voilà, ça c'est une autre suggestion, mais voilà, c'est autre chose. Tiens, supporters du Maroc, on vous attend au 32-16 également dans quelques instants avec Hamza Ramani. On va revenir sur l'une des infos du jour. Vahid Halilhodžić n'est plus sélectionneur du Maroc. Alors, c'était une info. Alors une rumeur qui traînait depuis un moment, c'est officiel depuis aujourd'hui puisque la Fédé marocaine l'a annoncé tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez cette décision? On vous attend, supporters des Lions de l'Atlas, au 32-16. Mais avant cela, avis tranché de Seb Piocel sur la prestation des promus lors de la première journée de Ligue 1.
Comment je détestais quand j'étais au centre à Nantes, que je me prenais une paire de baskets et que genre une semaine après, il y en a qui achetaient les mêmes.
Les copieurs.
Ah ouais, je détestais.
Ouais. Ah ouais.
Ah ouais, je déteste toujours aussi. Stéphane Guy, je regarde s'il prend pas les mêmes baskets.
Mais pas des baskets, il met des mocassins.
J'ai pas les moyens d'avoir des baskets. C'est beaucoup trop cher pour mon petit budget.
Alors, je vous rappelle, hein, lors de la première journée de Ligue 1, Auxerre a perdu 4-1 contre Lille. Ajaccio a perdu 2-1 à Lyon. Toulouse a fait match nul 1 partout face à Nice. Mais alors, toi, Seb, tu dis, t'as déjà perçu les limites des promus après cette première journée.
Alors après, c'est, bon, forcément, je vais pas faire un bilan des promus au bout d'un match. Simplement, je regarde le sur les statistiques et les par exemple sur les 8 dernières années de Ligue 1, il y a 7 clubs qui sont montés, qui sont redescendus, un peu moins sur les 2 dernières années. Sachant que sur les 8 dernières années, tu en as 7 qui sont redescendus.
Alors ouais, c'est pas énorme alors.
C'est
moins apparent.
C'est pas énorme, sachant que cette année, encore une fois, il y a 4 descentes, donc ça change beaucoup de choses. Un exemple tout simple, Clermont, qui était plutôt une équipe séduisante l'an dernier. Si jamais il y avait eu les 4 descentes, ils ont fini 17e, donc ils seraient aujourd'hui redescendus en Ligue 2. Quand je vois donc la première journée, puisque j'ai eu l'occasion de voir quasiment tous les matchs et notamment ces 3 matchs-là, alors c'est pas un secret de dire qu'il y a quand même un gap important entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Simplement, en fonction des clubs, tu arrives en Ligue 1 de manière différente, c'est-à-dire que tu as Toulouse qui a survolé la Ligue 2 avec énormément de buts, et on l'a vu contre Nice, ils ont fait un match plutôt intéressant, en tout cas une mi-temps plutôt intéressante, mais il faudra continuer dans cette dynamique-là s'ils veulent avoir de bons résultats. Ajaccio, qui était pas programmé à la base pour monter, même en Ligue 1, ils avaient un des plus petits budgets de Ligue 2, ils ont très très bien travaillé, ils ont été très solides défensivement, ils ont fait un match cohérent à Lyon, mais est-ce que ça va être suffisant avec 4 descentes en jouant, alors je dis pas que c'est une équipe qui fait que défendre, mais en tout cas il va falloir en mettre un peu plus pour pouvoir se sortir des 4. Et Auxerre, avec un coach que j'aime beaucoup,
qu'on aime tous, mais Marc Furlan,
Surtout en Ligue 2, parce qu'en Ligue 1, le constat est qu'il a du mal à maintenir ses équipes. Ils ont pris une dérouillée à Lille sur le premier match. Certes, ça reste qu'une première journée. Je dis simplement que cette année, plus que les autres, ça sera compliqué pour les promus de se maintenir. Voilà. Après, on sait aussi que sur des deuxièmes années, voilà, les clubs qui sont montés il y a 2 ans, en général, il faut confirmer, à l'image de Clermont. Mais cette année, plus que les autres, avec ces 4 descentes là, il faudra un travail remarquable de la part de ces clubs pour pouvoir se maintenir dans l'élite.
Qu'est-ce que tu penses de cet avis de Seb, mon cher Stéphane?
Oui, il aurait pu avoir cet avis-là, Seb, sans même attendre la première journée de championnat, parce que c'est à l'évidence, on n'a pas des clubs à part peut-être Toulouse, on n'en parle pas, parce que Toulouse survole la Ligue 2, ça me paraît normal, c'est une ville, une agglomération qui est dimensionnée évidemment pour la Ligue 1, et je pense qu'ils ont aussi des chances de se maintenir encore cette année, ne serait-ce que parce que le football c'est une histoire d'argent et que il y a assez d'argent à Toulouse, ce qu'il n'y a évidemment pas à Ajaccio et ce qu'il y a difficilement aussi à Auxerre. Donc je partage ton... Et c'est vrai qu'avec ces quatre relégations, ça sonne tous les dangers pour beaucoup. Mais il y a beaucoup d'autres équipes qui se sont montrées aussi... on verra, hein, la saison est longue. Il y a peut-être aussi des équipes qui vont prendre des points au mois d'août et puis qui vont peiner par la suite. Donc
ouais, il faut en disant qu'il faut pas, il faut pas. On parle souvent de dynamique en monte. Il faut pas louper son mois d'août. En tout cas, ces premiers matchs là jusqu'à aller.
Bah, si Clermont avait bien fait l'année dernière.
Si on va un peu plus loin jusqu'à la trêve internationale, ouais, vers le 20 septembre, il faut, parce qu'il y a des équipes qui sont pas prêtes. C'est pour ça que je disais Ajaccio. Et je salue Johan Cavalli qui fait vraiment un bon travail Ajaccio.
Johan
Cavalli.
Johan Cavalli.
Johan Cavalli, pardon.
C'est non, Cavalli.
Cavalli, d'accord.
Et qui fait un très bon travail à Ajaccio.
Quel joueur, lui.
Quel joueur. Quel directeur sportif, a priori.
J'étais fan absolu.
C'est vrai qu'à Lyon, finalement, on a retrouvé une équipe vaillante, quoi, qui avait mis tous ces ingrédients-là, ces valeurs-là, pour pouvoir finalement monter et avoir la meilleure défense de Ligue 2 et lui permettre d'aller en Ligue 1.
Est-ce que la question qu'il n'y a pas derrière ce que tu dis, parce que tu fais finalement, alors c'est pas juste une photographie à la J1, hein, tu l'as dit, tu as parlé des saisons précédentes, est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions sur le niveau de la Ligue 2, finalement? Ça, c'est un débat qu'on a souvent eu dans l'after, notamment avec les drôles de dames. Souvent, on s'amuse à essayer de comparer le niveau des deuxièmes divisions dans les différents pays respectifs. Bon, le championship, il y a les moyens financiers dont tu parlais, ouais, Stéphane.
Les clubs qui montent, en général, ont beaucoup de mal à se maintenir.
Ouais, je trouve que la Ligue 2 est beaucoup plus homogène. C'est-à-dire que l'an dernier, tu as eu vraiment Toulouse Et en plus de ça, quand on regarde le jeu, le nombre de buts marqués, j'aurais aimé aller voir un match au Stadium l'année dernière.
Bah, c'était une anomalie qui soit pas montée l'année d'avant déjà à Toulouse.
Mais oui, c'est clair. Et justement, là, on en revient là. Ils sont pas montés parce qu'il y avait ces fameux barrages qui existent depuis 5 ou 6 ans. Mais sinon, avant, ça aurait été 3 et 3. Là, cette année, c'est 4. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, tu as des clubs qui sont montés et qui sont pas redescendus parce que justement, il y avait ce fameux barrage. Alors, ça se voit moins sur les 2-3 dernières années. Il n'y a pas eu de. Bon, il y a eu aussi le Covid qui est rentré en ligne de compte. Mais en tout cas, c'est vrai que le niveau entre la Ligue 2, où c'est très homogène, où tu n'as pas, mis à part l'an dernier, tu n'as pas d'équipe qui survole, ça veut dire que je ne dis pas que tout le monde peut battre tout le monde, mais c'est très compliqué. Alors qu'en Ligue 1, tu as déjà toujours 5-6 équipes, on va dire les grosses équipes, les grosses écuries qui logiquement performent. C'est vrai que du coup, ça laisse moins de place. Et comme le disait coach Courbis, on va se retrouver à 10 et 10. En gros, c'est vrai qu'avec ces 4 descentes, tu vas te retrouver avec 10 qui peuvent jouer la Coupe d'Europe et quasiment 10 qui vont lutter pour pas descendre.
Dans quelques instants, Jérôme, supporter de la GIA, nous a appelé au 32-16. Il va intervenir sur l'avis de Sébastien Piocel.
Enfin, il est un peu tôt quand même pour enterrer les espoirs de.
Bien sûr,
j'espère pas qu'ils vont redescendre. Ouais, bien sûr.
Enfin, et puis, je vous rappelle, un supporter du Maroc, dans quelques instants, on va revenir sur le limogeage de Vahid Halilhodžić qui a été officialisé aujourd'hui par la fédération marocaine. On sera avec Hamza Rahmani pour faire le point sur ce dossier. Est-ce que vous comprenez cette décision? On vous attend au 32-16. À tout de suite avec Stéphane Guy et Sébastien Piocel.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Stéphane Guy, de Sébastien Piocel, avec vous également sur l'application Direct Studio, le hashtag RMC Live, comme d'habitude, bien entendu. C'est Piocel qui nous expliquait qu'il y avait un vrai gap, à son sens, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, qu'il a ressenti ça notamment dès la première journée de Ligue 1. On a Jérôme, supporter d'Auxerre, qui nous a appelé au 32-16. Salut Jérôme.
Salut l'équipe.
Salut Jérôme.
Alors Jérôme, on rappelle, hein, la GIA qui a perdu 4-1 lors de la première journée face au LOSC. Est-ce que toi, déjà, t'es inquiet ou pas plus que ça pour Auxerre?
Démarrer 4-1, oui, toujours un petit peu. Après, j'écoutais la fin un petit peu de vos arguments. C'est vrai que le début de saison, faut prendre des points sur un promu avec 4 descentes. Donc moi, j'assiste au match dimanche là sur le premier match à domicile. On espère que l'engouement va se poursuivre là après les barrages et la montée. Ouais, on va essayer de les pousser. Après, effectivement, oui, ça a un petit peu d'inquiétude. On va voir comment ça va se poursuivre sur la deuxième journée.
Et alors, toi qui as mangé de la Ligue 2 pendant pas mal d'années, hein, puisque Auxerre y était aussi, comment tu le trouves justement, le niveau de la Ligue 2? On parlait de ça il y a quelques instants aussi.
Bah, le niveau de la Ligue 2, ouais, c'est. Je crois que Jean-Marc Furlan a été passé il n'y a pas très longtemps chez vous, là, sur le mois de juillet ou juin. Là. Et effectivement, chaque journée, c'est un peu la bataille, quoi. Au niveau physique, là, j'ai vu que je pense qu'on a un petit peu eu peur là sur le premier match là sur Lille, et on s'est fait cueillir quand on a vraiment regardé l'équipe en face.
Il y a surtout eu beaucoup d'espace sur notamment les deux premiers buts là où ils se sont fait cueillir.
Ah oui, on s'est regardé. Pas le ballon est arrivé direct devant les cages. Manque de communication. Là, on a pas mal recruté en défense. Costil qui arrive, donc il y a peut-être aussi là ce qu'on se dit, c'est qu'il y a peut-être encore 2-3 matchs de rodage sur la défense.
C'est là où c'est dommage, parce que attention, je dis pas que tu dois jouer avec la même équipe qu'en Ligue 2, parce qu'il te faut renforcer aux 5-6 postes, notamment un ou deux par ligne. Mais le truc, c'est que normalement, quand tu montes, tu es sur une bonne dynamique. Ouais. Les joueurs se connaissent, ils viennent de vivre quelque chose d'incroyable, parce que de monter, ça reste incroyable. Encore plus là, avec les barrages, ça a été jusqu'à la dernière seconde. Et c'est vrai que entre guillemets, reconstruire un petit peu et avoir cette période-là où normalement, justement, tu devrais peut-être être mieux en place que certaines équipes. Et du coup, tu te mets toi aussi en difficulté en cherchant quelques automatismes avec des nouveaux joueurs. Après. Je peux comprendre que de toute façon, pour la Ligue 1, t'es obligé d'avoir quelques joueurs supplémentaires qui ont connu déjà la Ligue 1 et qui sont déjà habitués.
Sur un premier match, après c'était Lille qui sortait aussi d'une saison compliquée, changement de coach à l'extérieur, donc bon, on s'attendait pas non plus forcément.
Ah, puis tu démarres très mal.
Ouais, mais par contre 4. C'est vrai que c'est peut-être. Vous m'auriez posé la question il y a 3 semaines avant le championnat. Je pense qu'on n'était pas dans la même fougue. Là, sur le premier match, on réfléchit. Bon,
t'as un scénario de match qui sourit totalement à Lille, qui a des qualités incontestables. Il n'y a pas de débat sur le. Mais il y a aussi un truc qui m'a amusé. J'ai vu ça, je passais dans la semaine là. C'est que les expected goals, comme on les calcule désormais, la réussite de Lille sur ces. Notamment, je crois que Benjamin André, il a 2% de chance de marquer le but qu'il a marqué. Bon, il l'a marqué, et il ne le doit à personne. Mais voilà, ça n'a pas non plus souri à Auxerre.
Ça n'a pas souri. Après, c'est sûr que bon là on n'enchaîne pas trop de là on joue Angers alors effectivement c'est on sait la Ligue 1 mais à domicile donc c'est peut-être un premier match qui peut bien nous lancer. Je crois qu'il y a quand même pas mal de monde qui a
Angers ça a beaucoup bougé aussi donc il peut y avoir des possibilités.
Ouais voilà et par
ça contre, t'inquiète le départ de Monsieur Zou à la présidence ou pas plus que ça?
Non, c'était prévu. Alors j'ai bien relu, c'était prévu en fait déjà à la base quand il avait pris la présidence. C'était pas forcément lui qui était destiné à ça. Après, avec le Covid, ça ralentit pas mal les choses. Et donc là, de ce que j'ai lu, il cherche quand même un bon. Enfin, il a bien ciblé le profil qu'il fallait pour lui succéder. Un Français, voilà. Apparemment, c'était quand même dans les papiers. C'est pas. Il reste actionnaire, il reste dans le portefeuille, pour propriétaire du club. C'est juste, voilà, avec toutes les. Il va pas faire une nacelle, quoi. Il va pas être sur 1000 postes. Il préfère se concentrer sur ce qu'il a à faire et mettre quelqu'un qui connaisse le foot et qui prenne le relais tranquillement. Quoi.
Et tu crois en Furlan? Parce que bon, les statistiques en Ligue 1, même si j'aime beaucoup votre coach, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui avec la Ligue 1. Tu y crois?
Bah après il...
Non mais là il faut qu'il se maintienne, on est tous d'accord. Parce que
ça m'exaspère ce débat-là sur Furlan parce que Furlan il a toujours dirigé les derniers budgets, le 18, voilà. Quand t'as le 18e ou le 19e budget en Ligue 1.
Mais c'est important qu'il se maintienne pour qu'on arrête de dire en gros on peut pas se maintenir,
on joue bien. Je demande s'il y croit.
Il l'a déjà fait et puis il y a d'autres coachs qui jouent bien, il n'y a pas que Furlan qui joue bien, tous les coachs jouent.
Peu de moyens, ça qu'on va dire.
Oui, mais je veux dire, voilà, donner à Furlan des moyens et je pense qu'il se débrouillera à peu près comme les autres.
Alors là, après, c'est vrai qu'il a, comme vous disiez tout à l'heure, il a quand même gardé une ossature de la Ligue 2, sachant qu'il y avait quand même pas mal de joueurs qui venaient un petit peu de Brest ou d'équipes qu'il avait déjà coachées, qui l'ont fait aussi un peu rester de ce que j'ai compris, alors peut-être pas à 100%, mais qui l'ont poussé à rester pour poursuivre l'aventure en Ligue 1. Donc voilà, ça fait, il y a une osmose. Je pense qu'au niveau du groupe, il y a quelque chose qui peut matcher. Après, c'est le niveau de la Ligue 1. Voilà, c'est par rapport à notre niveau. Les quatre descentes et sur le terrain. Est-ce qu'on va savoir répondre plus que sur Furlan? Je pense que Furlan, les gars, ils sont avec lui. Là, il y a plus de 10 000. Imaginez-vous, il y a presque 10 000 abonnements qui ont été vendus sur un stade de 18 000.
Ouais, ah, ça, c'est énorme. On en a besoin.
Tu te rends compte, c'est quasi autant qu'à Nantes, ce que nous disait Pile tout à l'heure, 12 000 à Nantes.
C'est quand même c'est énorme.
Imagine, ça faisait 10 ans qu'ils attendaient de remonter.
Moi, j'ai été faire les barrages. Il y avait un engouement même.
T'habites à Auxerre, toi, Jérôme?
Non, j'habite à Paris. Par contre, j'ai une partie de ma famille.
Il y a plein de supporters d'Auxerre à Paris. Ouais.
Alors que Djibril, il faisait le contraire. Il habite à Auxerre. À Paris.
Non, mais bon, l'air.
Tu croisais souvent Djibril sur la route, non? Quand tu descendais, lui remontait.
Ouais, trop vite.
Donc voilà. Bah écoutez, on espère.
En tout cas, il y a un joueur que vous avez fait, moi, que j'aime beaucoup, c'est Mchangama. Il était annoncé à Nantes. J'aurais bien voulu. Il a pas fait un super match, la première journée, mais c'est vraiment un très très bon joueur.
Il peut être bon. Petite pensée aussi à Guingamp. Là, j'ai vu parce que c'est ceux à qui on l'a pris et j'ai vu qu'ils ont gagné deux matchs.
Son premier match sur
la Ligue 2.
Avec Caen, hein, pour l'instant, calme-toi, tout va bien.
Ouais, allez, Malherbe. Merci beaucoup, Jérôme, en tout cas d'avoir été avec nous. À très bientôt, Jérôme.
Salut, Jérôme.
Bonne soirée à toi. Supporter du Maroc, on vous attend au 32-16. Hamza Rahmani est déjà en place. Vahid Halilhodžić, lui, ne l'est plus. En revanche, puisqu'il a été limogé aujourd'hui de son poste de sélectionneur du Maroc. Et une fois de plus, avant une Coupe du Monde. C'est la troisième fois que ça lui arrive. C'est incroyable. Alors qu'il vient de qualifier une équipe pour la Coupe du Monde, il sera pas là. Supporter du Maroc, comprenez-vous le choix de la Fédé de limoger Vahid Halilhodžić? Alors Hamza va nous expliquer les raisons de ce départ, le timing aussi qui peut paraître surprenant d'ailleurs également. Et puis supporter du Maroc, on attend vos avis avec Stéphane Guy, avec Sepp Yocel. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
21h41, vous êtes sur RMC avec Sepp Yocel, avec Stéphane Guy. Hamza Rahmani nous a rejoint également. Salut Hamza.
Bonsoir messieurs.
Ça va? Salut Hamza.
Ça va.
T'es beau, t'es bronzé.
On a pris quelques vacances, comme toi, Nico.
T'es allé où, toi?
En Grèce.
D'accord.
Savoir.
Moi, j'ai pris de la graisse, moi, mais c'est une histoire. Alors, si t'es là, Hamza, c'est parce que l'une des infos du jour, elle concerne le Maroc, puisque Vahid Halilhodžić n'est plus le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Alors, annonce qui a été faite par la Fédé marocaine aujourd'hui. Une décision prise, je cite, en raison de divergences de points de vue, explique la Fédé dans un communiqué. Alors, on rappelle que le franco-bosnien s'est fait limoger d'une sélection juste avant un mondial en 2010 avec la Côte d'Ivoire. En 2018 avec le Japon, parce qu'en 2014, il est avec l'Algérie. Et donc là, c'est la troisième fois qu'il qualifie un pays pour une Coupe du Monde et qu'il se fait virer. Supporter du Maroc, est-ce que vous comprenez cette décision? On vous attend bien sûr au 32-16 pour y répondre. Première question, Hamza. Donc ça parle de points de divergence dans le communiqué de la Fédé marocaine. C'est quoi ces points de divergence entre Vahid et sa Fédé?
Alors je ne sais pas si c'est le principal, mais le dossier Hakim Ziyech fait forcément écho à cela. On sait que les relations entre les deux hommes sont rompues. Après la Coupe d'Afrique des Nations, le président de la Fédération marocaine a poussé pour que Vahid rappelle Hakim Ziyech, Mazraoui aussi, qui était notamment écarté. Mazraoui a accepté de faire son retour. Ziyech a dit non, je ne parle plus au sélectionneur, je ne reviendrai plus tant que Vahid est à la tête de la sélection marocaine. Donc on pense que c'est le principal problème. Après, on rappelle aussi que lorsque Vahid a signé son contrat à la tête de la sélection marocaine, en conférence de presse, le président de la Fédé, à l'époque, avait dit « Les objectifs sont clairs, c'est demi-finale minimum de Coupe d'Afrique des Nations 2021 ». Il s'est éliminé en quart de finale avec l'Égypte. L'Égypte qui a quand même embêté beaucoup de gros pays africains. Sauf qu'en l'occurrence, dans ces cas-là, on peut s'imaginer...
Le virer derrière, non ?
Exactement. Le timing fait que dans ces cas-là, tu le vires, j'ai envie de te dire, en février, juste après la CAN. Sauf que là, on est au mois d'août. Et c'est au mois d'août qu'on en a appris le départ de Vahid.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de critiques liées au casillage. Il y a aussi beaucoup de critiques liées au jeu pratiqué par le Maroc, notamment ces derniers temps. Est-ce que ça peut jouer aussi, tu penses, dans les points de divergence?
Peut-être, parce qu'il y a des résultats inquiétants. Je pense au match amical face aux États-Unis, alors qu'il s'est joué dans des circonstances particulières. Quelques jours avant un match de qualif, ils ont fait le voyage jusqu'aux États-Unis pour disputer ce match. C'était peut-être pas la solution la plus maligne qu'ait trouvée la Fédération marocaine pour préparer une Coupe du Monde. Maintenant, si on regarde les matchs de la sélection marocaine lors de la dernière Coupe d'Afrique, à mes yeux, ce n'est que mon avis, mais c'était pour moi l'une des sélections les plus séduisantes.
Ouais. Est-ce que tu penses aussi que l'éclosion au très haut niveau de l'entraîneur Walid Regragui là a pu jouer? C'est-à-dire que le Maroc s'est dit on a un plan B avec un entraîneur marocain qui plus est.
Clairement, je pense que les résultats sont incroyables. Il vient de remporter la Ligue des Champions et le championnat. Il perd en finale de la Coupe du Maroc, donc il est passé au tir au but.
Avec le WAC.
Ouais, au tir au but, donc à une séance de tir au but près d'un triplé historique. Je pense que le Maroc aujourd'hui a son sélectionneur, peut-être pas pour la prochaine décennie, mais pour de longues années. Maintenant, si tu fais une Coupe du Monde compliquée, qu'est-ce qui se passe? Oui, exactement. Ouais. On peut prendre cet exemple.
On rappelle le groupe d'ailleurs du Maroc pour la Coupe du Monde, c'est Belgique, Canada, Croatie. Hein. Donc, c'est-à-dire que, enfin, après, on ne sait pas. Hein, ils avaient fait une très belle Coupe du Monde la dernière. D'ailleurs, c'était même injuste qu'ils se fassent sortir dans le groupe de l'Espagne et du Portugal.
L'Espagne, hein. ils ont fait que des gros matchs. Le premier match face à l'Iran qui coûte.
Mais c'est vrai que s'ils terminent avec zéro point, on peut tout imaginer.
Et puis malheureusement pour eux, le calendrier fait que le Canada c'est le dernier match, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, il faudra performer et prendre des points, soit face à la Croatie, soit face à la Belgique lors des deux premiers matchs.
C'est vrai, comme ce qui est surprenant là-dessus, Seb et Steph, c'est quand même le timing. Parce que c'est vrai qu'Hamza le disait, il y a eu cette déception après la CAN, mais pourquoi attendre 6 mois dans ce cas-là après cette CAN pour le virer, quoi?
Moi, je pense que c'est l'argument que tu as dit en premier. Je pense que c'est vraiment par rapport à Hakim Ziyech. C'est a priori là-bas, c'est pas un dieu, mais presque. Il est vraiment idolâtré et certainement qu'au niveau de la fédération, on a tout tenté si ce n'est pour les rabibocher, en tout cas pour que Hakim Ziyech revienne et fasse comme Mazraoui, et ça n'a pas été fait et qu'il y a eu certaines pressions pour que Hakim Ziyech participe à la Coupe du Monde. Franchement, moi je vois ça comme ça. Après, on connaît le caractère de Vahid, on sait que c'est très compliqué et quand il a une idée en tête que c'est compliqué, mais pour moi ça me semble être le seul critère.
En fait, j'ai l'impression que c'est une décision populaire. Mais est-ce que c'est une décision juste?
Est-ce que tu nous rappelais, Hamza, tout à l'heure, que Vahid donc n'a dirigé qu'une seule sélection en Coupe du Monde, c'est l'Algérie, et que ça avait très très bien fonctionné?
On se souvient de cette élimination en prolongation face à l'Allemagne. On se souvient aussi de ce premier match face à la Belgique où il y a défaite de l'Algérie 2-1, mais l'Algérie mène jusqu'à les 10 dernières minutes. Tu te dis qu'avec sa science tactique, c'est peut-être l'entraîneur ou le sélectionneur qu'il fallait pour aller embêter la Belgique, pour aller embêter la Croatie. Alors encore une fois, Walid Regragui, on ne sait pas ce que ça vaut au très très haut niveau, puisqu'il a entraîné qu'au Maroc ou au Qatar, toujours avec succès. Il a toujours remporté des trophées dans sa jeune carrière d'entraîneur.
Tu oserais dire que le Qatar n'est pas le très haut niveau?
En termes de championnat, c'est pas encore le top niveau pour Oled Regragui. Mais la question que je me pose forcément, c'est qu'avec une préparation écourtée, il y a un stage de préparation qu'on aura au mois de septembre pour la trêve internationale, et derrière à peine une semaine pour préparer la Coupe du Monde, puisque la majorité des joueurs marocains évoluent en Europe.
Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Il y a beaucoup de locaux qui jouent en sélection marocaine.
Il y en a pas tant que ça. Avec Vaïd, même les trouvailles type Tariq Tissoudali, qui je crois est blessé, manquera la Coupe du Monde. Ryan Maillet évolue dans des divisions inférieures, mais en championnat inférieur, mais en Europe, en Belgique ou en Hongrie pour les deux que je viens de citer.
Mais après, pour parler football et pour revenir à Zidane.
Impressionnant Hamza quand même, Sébastien.
Il faut les suivre.
Il a ce qu'ils sont quand même répartis un peu partout. Et Hamza,
il travaille pour la Fédé, je crois. Non, mais pour revenir à Ziyech, au-delà de ça, même s'il est idolâtré, que c'est un choix populaire, par contre, en termes de
le message que t'envoies aux joueurs.
Non, même de par rapport à sa saison avec Chelsea, puisqu'on l'a commenté. C'est très très insuffisant. Ziyech était remplaçant à Chelsea. Certes, intrinsèquement, ça reste un beau joueur, il est capable de fulgurance, mais on n'a jamais retrouvé le joueur de l'Ajax à Chelsea.
Mais pour aller plus loin, Ziyech en sélection du Maroc, il a fait quoi? Enfin, il a des statistiques, si tu prends les statistiques brutes, c'est plutôt intéressant. Mais Hakim Ziyech, c'est une Coupe d'Afrique des Nations 2017.
Mais c'est pour ça que je te disais, peut-être qu'Hamza, il n'y a pas que ça. Peut-être que Ziyech est le problème principal et qu'il y a d'autres choses autour qui ont pu se greffer aussi.
J'ose espérer, parce que en tout cas, si Ziyech est le problème principal qui a conduit au limogeage de Vaïd, Ziyech, c'est une Coupe d'Afrique 2017 avec le Maroc qui n'a pas disputé. À l'époque, il avait des problèmes avec Hervé Renard. Coupe d'Afrique 2019, c'est lui qui rate le penalty face au Bénin, qui emmène le Maroc en prolongation, puis qui derrière perd face au Bénin en huitième de finale de Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique 2021, il ne la dispute pas. Enfin, Hakim Ziyech, c'est...
On va accueillir des supporters marocains qui nous appellent au 32-16, ça appelle pas mal. On a Abdel qui est avec nous. Salut Abdel.
Salut l'équipe.
Salut Abdel. Salut. Abdel.
Alors Abdel, est-ce que tu comprends ce choix de se séparer de Vaïd 6 mois après la CAN et 6 mois avant la Coupe du Monde, finalement?
Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire enfin la fin.
3 mois avant la Coupe du Monde.
Le dénouement était attendu, c'était un secret de Polichinelle. Maintenant, moi je tenais à remercier malgré tout Vaïd pour ce qu'il a apporté, parce qu'il a réussi à mettre, j'allais dire, le Maroc sur l'échiquier africain.
La Fédé aussi l'a remercié d'ailleurs aujourd'hui.
Et d'ailleurs les raisons étaient connues, j'allais dire, du grand public, en tout cas des supporters marocains. Après, pour rien vous cacher, moi, à l'arrivée de Vaïd en 2019, j'étais très sceptique. J'étais évidemment pas du tout pour que ce sélectionneur soit à la tête de la sélection marocaine. Moi qui suis supporter du PSG, je me souviens qu'en 2004, on a fini deuxième. Mais très honnêtement, j'ai eu plus d'émotions à l'époque de Diané et de Bourillon au Stade Bonal. Bon, Bourillon, j'exagère un peu, je vous l'accorde.
Tu aimes vivre dangereusement.
Mais blague à part, on peut effectivement le remercier. Et la qualification d'ailleurs au Mondial au Qatar n'est pas son seul fait d'arme, parce que Hamza l'a rappelé, mais à la dernière CAN, le Maroc a fait plutôt un parcours honorable, éliminé après un match très disputé en quart de finale face à l'Égypte. Bon, écoutez, j'allais dire, maintenant il va falloir se concentrer sur le terrain, parce qu'on a beaucoup parlé en coulisses du cas Vaïd, et apparemment ça a mis autant de temps, parce qu'il y a eu apparemment des négociations quant aux indemnités de départ de Vaïd, d'après certaines sources. Bon, écoutez, moi ce que je retiens simplement, c'est que le cas Ziyech a cristallisé, j'allais dire, toutes les tensions entre justement le joueur, la Fédé et puis Vaïd. Les supporters ont un peu la mémoire courte, parce que très honnêtement, moi je suis le Maroc depuis très très longtemps. Ziyech, il m'a pas procuré de plaisir quand il avait le maillot de la sélection marocaine. Très honnêtement, je retiens.
Donc finalement, Abdel, tu comprends sans comprendre, quoi.
Ouais, non, mais complètement. Et je pense que là, avec l'arrivée de Regragui, sans doute que Ziyech va revenir. En tout cas, je pense que ça va être son intention, puisque participer à une Coupe du Monde, c'est pour un joueur marocain, c'est peut-être une fois dans sa carrière. Donc voilà. Maintenant, je suis triste pour Vaïd, parce qu'effectivement, c'est la troisième fois qu'il subit, j'allais dire, une éviction avant une échéance mondiale. Mais quelque part, je suis aussi assez fier que ce soit Regragui qui va être prochainement officialisé, parce que ça va être le deuxième Marocain à la tête d'une sélection marocaine aux Coupes du Monde après celle de 94 avec Abdellah Binda. Donc c'est pas rien pour un coach africain, parce qu'on d'arriver jusque là.
Ouais.
Donc voilà. Et juste dernier mot par rapport à l'ego de Ziyech, il a un ego surdimensionné en termes de melon. Voilà, lui le sien il est bien mûr. Et malheureusement, tu peux pas composer avec des mecs comme ça, et tu peux pas compter sur des mecs comme ça parce que effectivement leur petite personne passe avant le collectif.
Mais comment tu expliques?
Ça ira pas bien loin, quoi.
D'ailleurs, c'est ce que Veid avait souvent expliqué en conf de presse, cette histoire-là. Merci Abdel, en tout cas, de nous avoir appelé au 32-16. Il y a pas mal d'appels. Hein. Au 32-16, on a Karim, autre supporter du Maroc, qui nous a appelé également. Salut Karim.
Salut Karim.
Alors Karim, t'es pas forcément étonné, mais franchement, on peut se poser des questions, non, sur le timing. C'est ce que disait Hamza tout à l'heure.
Oui, en fait, oui et non, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que après, bien sûr, comme vous l'aviez souligné, c'est qu'il avait à la CAN comme objectif aller en demi-finale. Il a échoué en quart avec des choix hasardeux, comme ne pas faire jouer Bouffal alors qu'il était en pleine bourre toute la compétition. Mais bon, ça, on met ça de côté. Ensuite, la fédération lui a redonné une chance, c'est-à-dire ils lui ont dit bon, allez, refais un pas vers Ziyech, va faire un pas vers Mazraoui, va faire un pas vers Harit, va faire un pas vers Belanda. Là, on parle quand même de quatre. En termes africains, quatre top joueurs quand même, et qui sont privés de notre sélection. Sachant que nous, au Maroc, au milieu, voilà, à part franchement, si on voit bien, à part Amrabat, Harit et Belanda, honnêtement, je vois pas quel milieu on pourrait aligner quelque chose de solide pour la Coupe du Monde. Après, bon. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mazraoui a accepté, Harit a accepté. Bon, la porte à Ziyech, elle était toujours fermée parce que lui, il a été très clair dans ses positions tant que c'était Vahid. Lui, il a pas accepté les mensonges en fait. Pour lui, en fait, bon, je sais pas qui dit vrai ou pas, mais en tout cas pour lui, Vahid a menti dans les médias et lui, il acceptait pas ça. Après, bon, il y a eu l'émergence aussi de Wahid Regragui en même temps. Et après, il y a eu sûrement la pression de tout le public marocain qui ont réclamé Walid Regragui, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu vraiment un coach marocain qui brillait au toit de l'Afrique, parce que là, vraiment, gagner un doublé Ligue des Champions et championnat, bah, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. J'ai envie de dire, ouf, quoi. Enfin. Bon, après, c'est vrai que pour le timing, c'est un peu just, parce qu'on va se dire, bon, il va nous rester un ou deux rassemblements avant de préparer la Coupe du Monde. Mais à un moment donné, Vahid, il faut qu'il se pose des questions. C'est quand même la troisième sélection où il se fait évincer juste avant la Coupe du Monde. Après, je sais pas ce que vous en pensez.
Ça n'a pas trop réussi aux précédentes sélections qui l'ont dégagé. Hein. J'ai pas souvenir que...
Ils sont sortis en 8e, je crois.
Ouais.
Ils sont pas loin de sortir la Belgique. Après, la Côte d'Ivoire, ça a été un fiasco. Ouais. Enfin, la gestion de la Côte d'Ivoire à l'époque...
Mm-hmm. Oui, mais après, bon...
En tout cas, si tu veux te qualifier pour la Coupe du Monde, tu sais qui appeler, quoi, déjà.
Du monde des suites.
Non, c'est clair. On a aujourd'hui on va dire un espoir. C'est Walid Regragui qui va venir sans pression.
Tu joues une Coupe du Monde. Je trouve il peut pas refuser. Bah parce que c'est une sélection, Maroc, parce que c'est la Coupe du Monde, c'est son pays. Mais quand même, sacrée pression. Moi, je dis
surtout dans le groupe dans lequel ils sont.
Ouais, en plus.
Mais bien sûr. Mais après, quand on voit bien, vous regardez l'équipe, la sélection du Maroc aujourd'hui. C'est pas la même sélection du Maroc.
Ouais, mais Karim, tu sais, tu dis ça aujourd'hui, t'es à 3 mois du mondial, mais quand tu vas être le nez dedans, tu seras le premier à être dégoûté si tu vois que tu perds 3-0 même face à la Belgique. Donc il va l'avoir, la pression.
Mais totalement. Après, bon, la réflexion de la fédération a été la suivante. Là, apparemment, ils vont mettre en adjoint, ils vont mettre Adil Ramzi, un ancien international marocain, qui est vu qu'il y a plus en plus d'Hollandais au Maroc, qui lui, il me semble qu'il s'occupe dans une équipe des jeunes Hollandais, etc., et qui parle Hollandais, etc., pour avoir bien la transition, etc. Je pense que ça a été mûrement réfléchi. À mon sens, ça aurait pu être fait avant.
Ouais. Ça c'est sûr.
Mais après, comme dans tout, vous savez très bien, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Ouais. Comme l'a dit l'auditeur précédent, ou je ne sais pas, c'est quelqu'un dans le plateau qui a dit, il y a sûrement un problème, ils ne se sont pas mis d'accord au niveau de l'argent. C'est vrai que la fédération n'était pas prête de lui payer le reste de son contrat. Mmh. Et au vu des tensions qu'il y avait, il faut dire ce qu'il y a. Je ne sais pas si vous suiviez un peu les conférences de presse de Vahid avec la presse marocaine.
Bah, c'était tendu, bien sûr. Le casillage revenait toutes les deux questions.
Mais en plus, il arrivait limite, il ne disait pas bonjour. Il disait, bon, je sais que vous allez m'allumer. Bon, je sais que le public marocain est exigeant. Je sais que vous êtes trop exigeant avec votre équipe, mais mec, on a que ça. Mmh. Et tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on rêve de basketball? On a personne. Ah non, nous, c'est le foot.
Donc, merci Karim, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, en tout cas, les
gars. Merci, à très vite, Karim. Voilà, donc Vahid qui ne sera plus sélectionneur du Maroc, forcément, hein, réaction de Vahid Halilhodžić. Non ?
T'es là ? Hier soir, quand je rentrais chez moi, je vous dis franchement, je vomis.
Bah oui, franchement, tu m'étonnes, Vahid. Merci Hamza d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt, Hamza Rahmani, spécialiste du foot africain. Alors. Merci beaucoup, citoyen, citadin, Stéphane. Ouais. Je sais pas comment on dit Guy. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Stéphane et moi ?
Sébastien. Sébastien, c'est joli, non ?
Ouais.
On a un roi portugais dans Sébastien, fameux, qui est mort d'ailleurs au Maroc. Dans une bataille qui a laissé des seigneurs de lac. Bref, on s'en fout. Allez, merci beaucoup. L'after se poursuit avec Gilbert Bribois dans quelques instants, bien entendu. On vous attend au 32-16. Bisous.